France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour dans le Loiret, nous traversons l'ouverture de chaque carnet cette semaine. Nous allons parler de la radio, la ludique, la pédagogique, la source d'évasion, mais aussi la radio, source d'inclusion sociale et de réflexion avec l'association orléanaise C'est comme à la radio. Et puis pour garder les neurones au chaud, nous porterons le béret d'une maison historique des Pyrénées-Atlantiques, la maison Lollaire, reprise en main par une jeune trentenaire qui rêvait de diriger une entreprise et qui réussit fort bien, Rosabelle Forzi.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Valérie Larminia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes trésorière de l'association C'est comme à la radio. Bienvenue, créée en 2015 à Orléans, par des enseignants, oui, des professionnels de la radio, des bénévoles. Quel était l'objectif ?
Alors, à l'époque, donc 2015, c'était une période un peu particulière. Et l'idée, c'était entre personnes qui se connaissaient, certains amis, enseignants, professionnels de la radio, animateurs, directeurs de médiathèque. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en fait, en dehors de nos activités professionnelles, hein, qu'on avait tous, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Nous est venue l'idée de créer cette association pour utiliser la radio comme une médiation, mais aussi et surtout pour travailler le rapport à l'information. Parce que, en fait, on était un peu étonnés, alors certains dans nos salles de cours, d'autres dans des échanges, dans leur métier, du rapport un peu compliqué, hein, au débat public, aux fausses informations qui circulaient. Et donc, l'idée, ça a été de créer cette association pour vraiment proposer concrètement des ateliers radio avec un objectif plus éducation aux médias, hein, comment ça marche l'information, ouais, comment on peut se poser des questions complexes et pas simplifier les choses. Et puis assez vite, dans les objets de l'association aussi, l'idée de se servir de la radio pour faire du lien social, pour reprendre confiance en soi. Donc on avait un petit peu deux objets.
J'ai eu un vieux maître de radio qui disait, Jean Chouquet, qui disait « la radio, ça se pense, ça s'écrit et ça se dit ». C'est une école de pensée, de réflexion, la radio ?
Ah oui, et puis alors vraiment, nos intervenants le voient bien, hein. On s'aperçoit de la dynamique que ça crée. Alors effectivement, hein, écrire, réfléchir à un angle, hein, on démarre toujours nos ateliers par une conférence de rédaction, donc déjà réfléchir ensemble, la manière dont on choisit son sujet, dont on le nomme, et puis ensuite tout le travail d'écriture, hein, ça souvent effectivement les gens se rendent pas compte, mais la radio c'est très écrit, et puis ensuite le travail de montage, alors sur lequel nos intervenants interviennent en priorité. Mais on voit bien comment le montage peut changer l'angle d'attaque, peut même faire mentir les gens. Voilà. Alors, une école du collectif, hein, parce qu'on compte beaucoup sur le collectif, et puis une école pour chacun de travail sur son rapport à l'information et au fait que fabriquer de l'info, c'est compliqué. Et donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour nous quand ça s'apprend. Et ce qui compte beaucoup pour nous, c'est aussi le côté, finalement, c'est pas par des discours autour de ça qu'on va toucher les gens. C'est parce qu'on fait avec eux, et que eux ils font. Il y a rien de mieux que d'aller faire une interview, que d'avoir à transformer quelqu'un qui est très bavard, transformer son discours en un format radio. Bah oui, on va couper, mais il faut qu'on soit fidèle à ce qu'il nous a raconté. Enfin, tout ça c'est très pratique et ça marche bien en fait. Donc voilà.
Ouais, vous avez fait beaucoup de choses, hein. D'abord des réalisations avec des jeunes, des écoles, des collégiens, des étudiants à Orléans, des ateliers au centre pénitentiaire d'Orléans. Et que deviennent tous ces objets ?
Alors, en fait, nos ateliers peuvent durer sur quelques mois, parfois quelques semaines, mais quelques mois, et se terminent toujours par une émission de radio qui est enregistrée dans les conditions du direct. Donc, où on va passer dans cette émission les productions, les reportages, les interviews, les cartes postales sonores qu'on fait avec certains. On va avoir un invité fil rouge, souvent en lien avec la thématique, le fil rouge qu'on s'est choisi. Et puis on a tout un habillage sonore, hein, c'est une belle production qu'on fait, ça c'est important pour nous. Et puis ces émissions sont déposées sur notre site internet, hein, c'est comme à la radio.fr. De temps en temps, on est diffusé sur France Bleu, avec qui on a un partenariat assez important, hein, sur ces actions, puisque ce sont eux qui nous mettent à disposition pour cette émission leur plateau, leur studio mobile et également un technicien.
Et c'est reparti pour cette année 2022. Vous allez retourner dans un collège pour un nouveau projet. Balance,
oui,
ta fake news.
C'est des projets qui nous tiennent particulièrement à cœur, qu'on a déjà réalisé avec des lycéens et des collégiens. C'est un atelier qui s'appelle Balance ta fake news. Et donc, on va redémarrer là avec un collège de l'agglomération d'Orléans. C'est l'idée de faire travailler deux groupes de collégiens, un qui va travailler sur une vraie info et puis l'autre qui va fabriquer une fake news en parallèle pour décortiquer un petit peu les manières dont on peut, à partir de quoi une fake news prend en fait, hein, en réel. Et puis on termine toujours par une émission. Voilà. Donc on est un peu prudent sur la manière dont cette fake news ne diffuse pas trop en dehors de l'atelier.
Ouais, ouais.
Mais oui, on aime particulièrement bien ce format qu'on a pas mal réalisé avec des collégiens et des lycéens.
Faut-il encore le dire, la radio, c'est bien mieux que les réseaux sociaux. C'est pas uniquement pour la rime que je dis ça.
C'est bien la radio, ça marche.
Ouais. C'est comme à la radio.fr pour l'adresse. Merci beaucoup Valérie.
Eh ben merci beaucoup Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Quand l'intelligence solidaire se marie au talent, cela donne Inklink, une association rare qui d'abord un collectif BD engagé. C'est aussi l'histoire de Laure, ingénieur agronome spécialisé en nutrition et en santé publique, et également anthropologue, d'une longue mission au Vietnam pour l'OMS, suivie d'autres voyages solidaires. Elle se met à dessiner, persuadée que la bande dessinée peut faire passer les idées différemment, et elle a bien raison. L'association est donc la rencontre entre ces actions humanitaires et ce vecteur de communication efficace. Créée en 2016 à partir d'une mission pilote en Amazonie, l'association a offert ses compétences en scénario, en dessin aux ONG œuvrant pour des causes sociales, environnementales et humanitaires. Plus de 40 artistes ont donné de leur temps et de leur savoir-faire à cette belle cause de la communication solidaire sans frontières, la lutte contre les exploitations et abus sexuels avec Action contre la faim, la réduction de la malnutrition infantile au Népal, ou plus récemment l'engagement des soignants des hôpitaux français contre la Covid. Le résultat de cet album est d'utiliser les très justes, comme on le dit, des mots justes après plusieurs années d'activité. Le collectif oriente ses créations vers la santé, physique ou mentale, les migrants, le droit des femmes et l'environnement, et on peut soutenir les actions et le travail par des dons qui permettent de rémunérer les auteurs et les autrices si on le souhaite. theinklink.org. Rosabelle Forzi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu quelques années de responsabilité dans des grands groupes d'informatique avant de vouloir prendre à votre compte une entreprise qui méritait un nouveau coup de pouce.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir contribuer à une jolie histoire qui date de 180 ans maintenant, oui, qui est la dernière fabrique historique de Béret, qui est la maison Lollaire.
Vous aviez connaissance de cette maison, ou c'est le hasard qui vous a mis face à cette entreprise qui avait d'énormes difficultés et qui déposait le bilan?
C'est le hasard qui a fait que j'ai rencontré cette maison. J'étais en recherche de reprise de société qui avait du sens, et je suis tombée sur une société qui était un petit peu le symbole de ce qu'on sait faire en France et d'un produit qui est aussi symbolique du français partout dans le monde. Donc ça m'a beaucoup inspirée.
Ouais, l'entreprise Lollaire, comme vous le disiez, 1840. Le fabricant historique de Béret basque, la particularité, c'est l'utilisation de laine de mérinos.
Exactement, entre autres. Et puis la particularité aussi, c'est que ce béret dit basque est fabriqué en Béarn, dans la réalité,
oui,
puisque c'est en effet fabriqué à Oloron-Sainte-Marie.
Oui,
c'est de la laine mérinos feutrée. C'est un produit très technique, en fait, qui est utilisé notamment beaucoup par les militaires et par beaucoup de métiers techniques au départ.
Ouais. On vous remercie, Rosabelle, de participer à la réunion et la conjugaison nouvelle du Pays basque et du Pays béarnais, ce qui n'a pas toujours
travail normalement.
Sérieusement, quand on se lance dans cette aventure, il faut s'imprégner d'un patrimoine. C'est lourd à porter. Il faut en prendre connaissance.
L'avantage que nous avons eu, c'est que elle était portée par des personnes qui avaient 40 ans, 50 ans de maison. Donc j'ai été vraiment portés par leur savoir-faire, et puis mon savoir-faire, ça a été de les aider à le faire savoir, à moderniser, mais c'est vrai que toutes les personnes qui y travaillaient avaient déjà de l'or dans les mains, et ça a juste été une façon de mettre en lumière ces savoir-faire-là.
Comment on gagne la confiance de personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années dans une entreprise et qui voient cette entreprise se déliter ?
On gagne la confiance des personnes, surtout en faisant preuve d'humilité, en essayant de comprendre et de savoir ce qui fait, ben déjà qu'ils sont encore debout, puisque même si l'entreprise était en difficulté, c'était les seuls qui restaient, alors qu'historiquement, il y avait une trentaine d'usines dans le secteur. Donc, ils avaient quand même réussi à rester debout. Donc, c'est vraiment s'imprégner de ce qui leur a permis de rester debout et puis de le mettre en avant, de le mettre en valeur et puis de pas oublier que c'est un produit qui a toujours existé et donc il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas encore très très longtemps.
Mais comment on gagne un nouveau marché? Comment on relance une économie qui a été flagellante?
On se base sur véritablement ce qui fait la force. Donc on continue à travailler notamment avec des matières 100% fait en France, donc on va aller chercher de la laine française, on va aller chercher du cuir qui vient de chez nous, on va aller remettre le doigt sur ce qui fait notre force et de l'artisanat, c'est la beauté vraiment des finitions, du savoir-faire, de tout ce qui est véritablement minutieux, et puis après on le montre et on le propage et on montre partout dans le monde parce que c'est un produit qui aussi s'exporte très bien, donc ouais. On va montrer à tous les pays étrangers que ce qu'ils prennent pour un béret souvent n'en est pas un et qu'un véritable béret ben c'est ça a tout d'un petit chef-d'œuvre quoi, c'est assez magnifique quoi. Ouais. Puisqu'on fait chez nous de la teinture, du tricot, tous les métiers sont représentés chez nous.
Et Che Guevara portait un Lolaire.
Exactement, ça a été un peu l'histoire marrante que l'on a découvert il y a quelques années, en découvrant en fait une photo du béret qui avait été de Che Guevara qui a été vendu aux enchères, et en découvrant cette photo-là, on s'est rendu compte que l'écusson et la coiffe à l'intérieur étaient une coiffe de la maison qui appartient du coup aux écussons de la maison.
Alors, une dernière petite recette, si vous avez le droit de la divulguer, Rosabelle. Comment donne-t-on ces couleurs si particulières à ces bérets qui, à l'origine, sont blancs comme la laine ?
Exactement. Alors, on a la chance, nous, d'avoir encore un savoir-faire dans la maison qui est très rare aujourd'hui en France, qui est la teinture. Et on a un maître teinturier, Philippe, qui travaille des pigments pour arriver à donner des couleurs très très différentes, qui travaillent aujourd'hui notamment des teintures aussi, également des teintures naturelles pour essayer de reprendre des techniques anciennes respectueuses de l'environnement. Et tout ce savoir-faire, ben, c'est un savoir-faire qu'on a depuis 1840, ouais. Et qu'on garde précieusement et qu'on transmet surtout pour pas que ça ne se perde.
Lolaire-france.com pour l'adresse. Merci Rosabelle.
Merci beaucoup à vous.